La suite de votre grand journal du soir, Nathalie Lévy. Et il est l'heure de zoomer et décrypter les toutes dernières infos du jour avec nos grandes voix. Elles sont autour de vous, mais à distance. Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1, Mickaël Darmon, éditorialiste politique, Emmanuel Duteil, chef du service Économie. Et toute cette semaine, nous irons en région pour voir comment la France se prépare à sortir de ce confinement. Ce soir, le correspondant d'Europe 1 à Nice est avec nous, Frédéric Michel.
Bonsoir à vous les grandes voix, bonsoir Frédéric Michel du côté de Nice,
dans le sud-est. Bonsoir à tous.
Bienvenue, j'adore cette chorale. Alors on va écouter d'abord, si vous le voulez bien, Emmanuel Macron, parce que Sébastien Krebs le dit il y a un instant, Édouard Philippe s'est exprimé tout à l'heure au Sénat. D'ailleurs le Sénat qui retoque il y a quelques minutes le plan du gouvernement à 89 voix contre 81, le Sénat à majorité Les Républicains, qui retoque donc symboliquement le texte. Et puis Emmanuel Macron, lui, qui s'exprimait depuis l'Élysée au sujet de cette première phase de déconfinement lundi prochain. Écoutons, et Mickaël Darmon, on en parle après.
C'est une étape qui est indispensable. Il faut l'aborder avec beaucoup d'organisation, de méthode, avec aussi beaucoup de calme. Je comprends toutes les inquiétudes, mais on va les régler à chaque fois au bon niveau. Il y a parfois des inquiétudes qui se règlent localement, il y en a d'autres qui se règlent nationalement. Et il faut le faire avec beaucoup de pragmatisme et de bonne volonté. C'est ça l'esprit qui est le nôtre. Jeudi, on annonce tous les détails. Et on se préparera et on fera les choses en bon ordre partout sur notre territoire.
Mickaël Darmon, méthode, calme, pragmatisme, le triptyque du jour d'Emmanuel Macron, quasiment souriant hein, quand il prend la parole pour expliquer ça de manière très sereine aux Français.
Bien oui, il y avait nécessité et obligation de voir au fond prendre l'inverse des de ce que les gens ressentent, en particulier les maires. On a entendu à l'instant d'ailleurs Jean-François Copé, méthode calme, organisation, c'est exactement l'inverse que ressentent les acteurs premiers de ce déconfinement, en l'occurrence les maires. Donc il y avait effectivement une volonté à l'aube de cette semaine de tous les dangers hein, pour le président de la République et d'une manière plus générale pour le gouvernement de venir recadrer, tenter de relisser une communication plus ou moins désordonnée, avec toutes les contradictions, toutes les inquiétudes, notamment liées bien sûr, bien entendu, à la reprise des cours et bien évidemment au retour dans les entreprises. Donc c'est une sorte de, je dirais, de jeu de rôle
Emmanuel Macron dans une forme d'ataraxie, hein, toujours un peu lyrique, et puis Édouard Philippe plus martial.
Alors, parce qu'effectivement, au même moment, il était en train de dire autre chose.
Il était au Sénat. Voilà. Alors lui, il est au Sénat à ce moment-là. Il explique évidemment ce qui va se jouer dans les prochains jours. Il est très pragmatique aussi sur des aides. On y vient. On va y venir, je veux dire. Mais le Sénat a été très critique.
Oui, comme prévu, dirais, parce qu'évidemment, comme vous l'avez rappelé, il est donc majorité les Républicains, mais avec aussi une forte proportion d'abstention, c'est-à-dire aussi un message envoyé d'attentisme quand même au chef de l'État et au gouvernement pour dire on se retrouvera après, parce que dans le même temps, il faut savoir que dans les prochains jours sera donc adoptée une commission d'enquête qui est en cours de constitution avec déjà son président, le président de la commission des affaires sociales, qui va examiner l'ensemble des politiques publiques menées depuis le début de cette affaire, remontant même en amont, de façon à décortiquer la manière dont tout cela a été géré. Donc on est bien sur aussi une logique
des
à deux temps,
là aussi sur le jeu de rôle, les masques, les tests,
les politiques publiques et tout cela. Donc on est bien là aussi sur un jeu de rôle, c'est-à-dire effectivement on s'abstient, on continue à maintenir cette intention républicaine d'unité nationale pendant que l'on gère le fort de la crise, mais attention, c'est aussi le message que la parole politique va aussi bientôt se déconfiner.
Et Emmanuel Macron qui se déconfinera tellement que demain il sera sur le terrain, dans une école en région parisienne. On va y venir dans un petit instant, vous allez nous raconter où, quand, comment, ce ne sera pas chez Jean-François Copé qui est à vous.
Absolument pas.
Emmanuel Duteil, bonsoir, bienvenue de retour.
Bonsoir,
avec nous.
Content de vous retrouver.
Bah, pareillement. Alors Emmanuel, ce retour au travail, ça prend forme, c'est pour lundi. Sur le papier, dans la pratique.
Alors dans la pratique, ça va être un sacré bazar hein, puisque le ministère du Travail a fait passer hier un guide aux chefs d'entreprise de bonnes pratiques à mettre en place pour faire en sorte que ça se passe bien. Alors on rappelle déjà la règle première et ça a été redit encore ce matin par Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Quand le télétravail est possible, au moins pour les semaines à venir, il faut laisser le plus possible de salariés en télétravail. Mais quand c'est pas possible et qu'il faut revenir au travail, il y a une règle qui est peut-être passée un petit peu inaperçue ce week-end. Chaque collaborateur va devoir disposer d'au moins 4 mètres carrés pour lui. C'est un tiers d'une grande chambre d'un appartement. Donc vous voyez, c'est quand même un espace qui est extrêmement important à créer. Et notamment dans les grands open space, mais c'est le cas, on peut prendre l'exemple à Europe 1. Hein. Aujourd'hui, on ne pourrait pas accueillir tous les collaborateurs pour respecter cette norme des 4 mètres carrés, mais c'est indispensable pour avoir cette fameuse distanciation. Il faut également prévoir une règle au niveau des ascenseurs. Hein. Là, il y a énormément de collaborateurs dans les grosses entreprises, dans les gros sièges nationaux ou régionaux. Ben, là aussi, il faudra attendre. Mais pose aussi toute la question, quand vous arrivez face à votre ascenseur, il ne faut pas qu'il y ait une file d'attente à ce moment-là. La question, bien évidemment, des masques. Enfin bon, tout ça va être... les entreprises vont devoir régler ça. Et justement, elles se posent la question de leur responsabilité pénale et civile derrière. Ouais. C'est un point très important, puisque les organisations patronales, avec en tête le MEDEF ce soir, ont écrit aux autorités compétentes pour dire... Il faut trouver un cadre, parce qu'on veut bien mettre bien évidemment tout ça en place. Je crois que la quasi-totalité des entreprises là-dessus jouent terriblement le jeu pour essayer de prendre soin de leurs collaborateurs. Mais s'il y a un manquement, s'il y a une erreur, si notre collaborateur fait une erreur sur le lieu du travail, il ne faut pas qu'on soit tous potentiellement condamnables.
Et sur ce point, justement, notez bien qu'à 19h10, Aurélie Herbemont recevra Patrick Martin, président délégué du MEDEF. Vous en parliez à l'instant, l'organisation patronale Emmanuel Duteil. À tout de suite, les grandes voix. Ève Roger, juste après, je viens vers vous. Et puis, évidemment, Frédéric Michel à Nice. Ce déconfinement, on s'en rapproche, mais comment? À tout de suite.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir avec les grandes voix autour de vous, Nathalie Lévy.
Oui, avec des grandes voix de toute la France. On va rejoindre Frédéric Michel à Nice dans un petit instant. Ève Roger, avant cela, bon, ce déconfinement sur le papier, c'est le 11 mai. On en parlait avec Emmanuel Duteil, et notamment ces 4 mètres carrés désormais dans les entreprises. Dans une semaine, on y croit ou on n'y croit pas?
À l'école, vous voulez dire?
Bah oui.
Pardon, ou le déconfinement. À l'école, oui, oui. À l'école, hein, on parle de l'école.
Bien sûr.
Parce qu'on pourrait parler de la Terre en général. Sur l'école.
Vous, c'est l'école.
Alors. On y croit, bien sûr, on y croit parce que le Premier ministre l'a dit, mais c'est pas, ça suffit pas. Disons que on y croit dans les départements verts, évidemment, on y croit dans le 11 mai, les écoles maternelles, élémentaires, ils devraient pas. Enfin, il y aura plein de problèmes localement, mais on y croit. Et alors, tout le problème, ça, c'est dans les départements rouges. Et ben, moi, je pense que ça va arriver, mais progressivement, un peu comme le déconfinement, vous voyez. Ça sera pas le 11 mai, ça sera pas tout le monde à l'école le 11 mai, ça va être très très progressif.
Parce que le 11, c'est voilà. L'enseignant. Hein,
alors,
déjà.
Non seulement c'est le 12, mais, pas, mais peut-être même au-delà. C'est-à-dire que nous venons de recevoir le communiqué des organisations syndicales qui demandent une semaine pour mettre en place la rentrée scolaire. Donc, ça, je ne sais pas s'ils obtiendront une semaine entière, mais c'est sûr qu'ici et là, on annonce 13, 14 mai, parfois même jusqu'au 18.
Donc, mais Ève, même si on a des calons jusqu'au 18, une semaine de plus, qu'ils l'obtiennent, qu'est-ce qu'on fait d'une trentaine d'élèves par classe? Est-ce qu'on parle de cet objectif-là ou est-ce qu'on est quand même dans un effectif extrêmement réduit
Non seulement. Vous avez raison. Non seulement ils réclament une semaine globalement pour se préparer, mais ils disent c'est 10 élèves maximum par classe. Aujourd'hui, la règle, c'est 15. Donc, ils disent, en fonction des classes et des écoles et de la structure des écoles, on peut passer à moins de 15, mais la règle générale, ça reste 15. Donc, eux demandent 10. Donc, j'imagine que la moyenne, on va arriver à peu près entre 10 et 15 élèves par classe. Ouais. Mais n'oubliez pas qu'il y a 4 situations possibles, telles que ça a été dit, puisqu'il y aura soit vous serez à l'école, les enfants seront à l'école, soit ils seront à la maison en télétravail, soit ils seront en activité périscolaire, sport et culture à certains endroits. Soit la quatrième solution, elle m'échappe, vous voyez. Soit ils seront à la maison, je vous l'ai dit, soit ils seront en études.
Ça fait quand même beaucoup de monde pour cadrer tout ce petit monde, même si on n'est que 12 par classe. Et donc, ça veut dire peut-être, dans certains cas, du renfort dans les agents municipaux, parce que vous imaginez un peu le nombre d'enseignants qu'il faut?
Alors, il y a les enseignants, effectivement, mais pour la partie, la quatrième situation, sport et culture, ça sera effectivement des agents municipaux. Ça ne sera pas des enseignants. Les enseignants, ils vont surveiller l'étude. On ne sait pas comment ils vont faire à la fois la classe en présentiel et l'enseignement à distance, ça c'est vraiment aussi un problème. Et puis il va falloir organiser tout ça. Vous savez, une demi-journée ici, une demi-journée par là. Moi je crois que ça va se faire vraiment petit à petit, en fonction des situations locales. Je pense pas qu'il y ait un report massif et annoncé. Genre, on entendait encore Édouard Philippe le dire cet après-midi. C'est le 11 mai et il n'a pas l'air de vouloir reculer sur cette date du 11 mai sur la rentrée scolaire. Mais c'est vrai que ça pose une infinité de questions, et en particulier sur la priorité donnée à certains enfants plutôt que d'autres. Ça, ça, c'est sûr que j'aimerais pas être directeur d'école ni maire aujourd'hui. J'aurais peur de perdre mes cheveux.
Eh oui, c'est ça. Ou comment recréer des inégalités absolument sociales quand au départ l'idée est de les gommer. On va en reparler de cela. C'est le sujet clairement crispant du moment avec nos invités. Ce sont des maires, des enseignants, des parents d'élèves à 19h30 jusqu'à 20h. D'ailleurs, on vous donne la parole ce soir sur Europe 1. Frédéric Michel, nous voici à Nice avec de très belles images, mais très angoissantes aussi, de la promenade des Anglais ce week-end sous le soleil, mais avec ces bancs bleus intégralement vide et ces masques désormais depuis aujourd'hui obligatoires.
Pas encore, hein, obligatoire. Alors à Cannes et à Mandelieu depuis aujourd'hui, effectivement.
Ah ben je n'entends pas bien. Hein. Je sais pas si c'est le vent.
Et à Nice, non, c'est pas le vent. Il fait très très beau d'ailleurs ici sur la Côte d'Azur. Et à Nice, ce sera à partir du jour du déconfinement, c'est-à-dire le.
Je vais vous rappeler. Vous savez quoi, Frédéric, je vous rappelle dans une seconde le temps de vous sécher après un bain. Non, je plaisante. Et on vous rappelle parce que la ligne est très mauvaise. Promis, je vous rappelle dans une seconde. On va revenir avec les grandes voix au complet dans un petit instant. Peut-être revenir vers le chômage partiel avec vous, Emmanuel Dutheil, parce que ce chômage partiel, évidemment, il a été le recours pour nombre d'entreprises depuis plus d'un mois et demi maintenant, qui commencent enfin très progressivement à se tasser. C'est anecdotique, mais quand même.
Oui, effectivement, on a enfin l'impression d'être arrivé à une sorte de palier maximum, puisque toujours elle, Muriel Pénicaud, ce matin, est allée donner chez un média concurrent les derniers chiffres. On est à 11,7 millions de salariés qui sont au chômage partiel. Il y a quelques jours, on était à 11,4 millions. C'est la première fois que, pardonnez-moi l'expression, ça progresse si peu. Donc, ça semble montrer que ça y est, on est arrivé au bout. Ce qui commence à être assez logique, hein, puisque logiquement, toutes les entreprises ont, ça y est, muté tout ce qu'ils pouvaient en chômage partiel. Et c'est normal que pendant plusieurs temps, c'est continué fortement de progresser. Parce que des gens qui avaient encore du travail au début du confinement, ben, un mois plus tard, une fois qu'on a réglé tous les dossiers et qu'il n'y a plus rien à traiter, c'était compliqué de continuer à travailler. Et donc, on bascule en chômage partiel. Donc ça, c'est un point important. Autre point important sur le chômage partiel, c'est l'idée qui avait été avancée à un moment par Muriel Pénicaud qui disait « Attention, ceux qui en bénéficient au titre de la garde d'enfants, début juin, ça va peut-être se compliquer parce qu'il faudra vraiment prouver que vous ne pouvez pas mettre vos enfants à l'école. Grosso modo, si c'est juste parce que vous avez peur, ça sera un petit peu compliqué. » Ce matin, la ministre est quand même revenue sur ses propos en disant que tout ça va être arbitré à la fin du mois. Et ce qui est marrant, parce que... Bah marrant, c'est pas marrant en soi, on va pas rigoler avec ça, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on sent bien qu'il y a un double discours permanent au sein du gouvernement, puisque encore cet après-midi, Édouard Philippe a martelé qu'il fallait retourner au travail, qu'il fallait que la reprise économique est là. Mais on sent bien qu'à chaque fois, il y a une sorte de peur qu'on peut tous comprendre, hein, de se dire « Ouais, mais si on renvoie tout le monde au travail, comment ça va se passer derrière ?» Et si on enlève surtout tout de suite toutes ces verrous de sécurité qui permettent à l'économie française et en tout cas aux collaborateurs, aux salariés de ne pas sombrer dans le chômage pour le moment, comment on va faire et comment le pays va tenir ? Donc on voit qu'on est vraiment sur une ligne de crête extrêmement, extrêmement limitée.
Alors on y retourne dans un instant. Frédéric Michel, vous êtes branché, je vous retrouve juste après ça. Les grandes voix, à tout de suite. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1. Nathalie Lévy, vous êtes entourée des grandes voix jusqu'à 19h. Et Frédéric Michel, pour commencer, on vous retrouve à Nice, enfin, ravi Frédéric Michel. Alors les masques, on en parlait, obligatoires autour de Nice pour l'instant, dites-nous où, quand, comment précisément.
Alors depuis aujourd'hui, hein, à Cannes et à Mandelieu, la Napoule, le port du masque est obligatoire dans les espaces publics urbains. À Mandelieu, le contrevenant s'expose à 35 euros d'amende en cas de récidive, c'est-à-dire qu'une première fois, on va l'excuser, puis la seconde fois, il sera verbalisé. 38 euros à Cannes, à Nice, où la distribution est en court, l'arrêté entrera en vigueur le 11 mai, hein, le jour du déconfinement. C'est-à-dire que pour l'instant, vous baladez à Nice avec un masque, vous avez une amende parce que vous n'avez pas le droit de vous balader comme ça, puisqu'on est encore en période de confinement. Vous savez que c'est Christian Estrosi qui a dégainé, qui a été un des premiers maires à commander un nombre très conséquent de masques. Plus de 900 000 masques ont été commandés. Ici, à Nice, normalement, chaque niçois devrait pourrait recevoir 2 masques par habitant. Il y a également une fabrique, un atelier qui a été construit où l'on fabrique 10 000 masques chaque semaine. C'est le cas également à Cannes. Vous voyez, les choses se sont effectuées ici dans la région sur la mobilisation notamment des différents élus, des maires, du conseil départemental. Et ici, aujourd'hui, on attend notamment à Nice ce fameux jour du déconfinement pour savoir si les habitants seront respectueux de cette mesure, en effet, de port de masque obligatoire. Vous saviez que ça avait fait un peu grincer les dents le ministre de l'Intérieur.
Ben évidemment, comme Gérard Collomb qui a suivi aussi à Lyon et d'autres, parce que c'est vrai qu'il a été très en pointe, Christian Estrosi, masque, caméra, etc. Pour sa ville, il a sorti les grands moyens et forcément ça fait parler. Je reviens vous voir dans un instant parce qu'il y a le tourisme à Nice et ça aussi ça fait parler, ça inquiète surtout. Michaël Darmon, l'étape sur le terrain d'Emmanuel Macron demain, ce sera dans une école dans la ville de Poissy, donc en région parisienne, du côté de Carl Olive et non pas de Jean-François Copé, qui est à Meaux, cela va sans dire. Là, on est chez un maire DVD, soyons clairs, et c'est là-bas que Emmanuel Macron a choisi de regarder comment on pouvait se faire une pré-rentrée en déconfinement.
Oui, ça va être dans une école dite modèle, qui déjà depuis le début du confinement accueille de 7h à 19h les enfants, tous les personnels soignants et des agents municipaux. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le lieu choisi. Poissy, Carl Olive, qui dirige également un groupe d'élus locaux dans les Yvelines, avec beaucoup, effectivement, comme vous l'avez dit, de divers droites et même de LR, qui s'appelle Génération Terrain. C'est la deuxième fois que le président de la République va s'adosser à ce groupe d'élus Génération Terrain dans un moment charnière. La première fois, on s'en souvient peut-être, c'était au moment des Gilets jaunes, lorsque tout le monde disait « Mais pourquoi Macron ne prend pas la parole? Pourquoi il ne s'exprime pas sur ce qui se passe ?» Eh bien, il avait reçu tout à trac, après un échange de textos justement entre Carl Olive et Emmanuel Macron, une trentaine d'élus de Génération Terrain à l'Élysée pendant 3 heures, et il avait parlé à ce moment-là totalement de manière, décodée, débridé, notamment en disant oui, effectivement j'ai eu tort de faire le 80 km/h et ce genre de choses. Ça avait provoqué un grand agacement, voire plus, au sein des marcheurs qui considèrent que à chaque fois que Emmanuel Macron veut faire des signaux importants, veut donner des signaux importants, eh bien il envoie des signaux également à droite. Ouais. Et ça, ils ne comprennent pas pourquoi il n'y a pas beaucoup plus d'équilibre dans ce fameux en même temps. Il y a par exemple nombre de maires macronistes qui ont soutenu Macron, qui viennent plutôt du centre-gauche, qui eux considèrent d'ailleurs que le système et le protocole mis en place pour la rentrée scolaire après le confinement convient, peut être mis en place avec sans les psychodrames que l'on entend et qui sont pour partie quand même aussi instrumentalisé sur le plan politique. Et ça, effectivement, ça encore ce soir, il m'est encore revenu effectivement que ça étonne, ça énerve, parce qu'on dit mais pourquoi toujours va-t-il s'adosser aux gens de Génération Terrain, pourquoi toujours va-t-il du côté de la droite? Eh bien demain, en tout cas, ça sera encore un nouvel exemple pour un moment important.
Oui, ce sera d'ailleurs Carl Olive, l'invité de la matinale de Mathieu Béliard, 7h40, le maire d'Hiver Droite. Vous l'avez dit, cette démonstration à Poissy pour Emmanuel Macron. Ève Roger et Frédéric Michel, on a peu de temps, mais j'aimerais bien vous entendre tous les deux. Ève Roger, d'abord sur la rentrée, sur l'aspect plus santé de nos enfants à l'école, avec des risques, quand même de ce retour en classe.
Eh ben, si vous voulez, les données scientifiques récentes sont quand même plutôt rassurantes. C'est-à-dire que on sait maintenant que les enfants sont un peu moins touchés que les adultes. On sait aussi qu'ils sont assez peu contagieux entre eux, contrairement à ce qu'on croyait. Vous savez, au Contamine Montjoie, vous vous souvenez, ce petit garçon, il était en contact avec 150 élèves à Lyon. Eh ben, aucun n'a été positif. Et puis, troisième élément assez rassurant, c'est que finalement, ils infectent assez peu les adultes, pardon. Et pour une raison, pour deux deux raisons. D'abord parce qu'ils ont une capacité pulmonaire un peu moins importante, donc ils ont des micro-gouttelettes moins importantes. Et puis on n'y pense pas souvent, mais c'est vrai qu'ils ne sont pas à hauteur d'adulte. Donc en gros, leurs micro-gouttelettes ont plutôt tendance à tomber par terre sur les surfaces. Alors là, il faut vraiment une très très bonne hygiène des surfaces. Mais si vous voulez, finalement, on croyait que c'était des petites bombes virales au début du confinement. Et puis en réalité, plus ça avance et plus on se rend compte qu'ils sont moins... j'ai un journaliste de la radio qui disait, quand je me balade avec mes enfants, j'ai l'impression d'avoir des Rottweilers avec
c'est
moi.
Vrai, c'est vrai, et ça tient les gens à distance.
C'est ça. Et bien en réalité, c'est plutôt rassurant. Allez. Et ça devrait plutôt rassurer à la fois les adultes, les parents et puis aussi les enseignants.
Voilà, enfin un élément effectivement qui peut être un petit peu rassurant. Frédéric Michel, on n'est pas du tout rassuré, hein, dites-moi, chez vous, du côté de la promenade des Anglais, des restaurateurs, des plages. Hein. Non, pas d'élément encore pour l'instant, mais concrètement.
Non, la catastrophe touristique semble inévitable. Hein. Les hôteliers restaurateurs restent dans le flou et espèrent que les restrictions de déplacement des Français ne seront pas trop sévères pour cet été. Travailler exclusivement avec une clientèle locale serait très préjudiciable à de nombreux commerces. Les restaurateurs vont tout faire, mais ils souhaitent d'abord aussi connaître la date de réouverture de leurs établissements, car vous le savez, pour l'instant, pour les cafetiers et les restaurateurs, on n'a toujours pas de date. Et ça, ce sera important pour préparer notamment la saison qu'ils espèrent quand même, où ils espèrent un peu sauver les meubles avec une clientèle qui pourrait venir peut-être de la région parisienne, du nord, de la Bretagne, de l'est, mais pas une clientèle exclusivement locale, ça ne marcherait pas.
Ouais, bah on espère, hein, tout comme vous, bien entendu, on espère venir vous rejoindre cet été. Merci beaucoup Frédéric Michel, merci à vous tous les grandes voix, c'est toujours un plaisir de vous retrouver, donc à demain, même endroit, même heure,
presque. À demain.
Salut à vous.
À demain.